Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement, et on recommence notre saison en plantant des arbres dans nos parcelles cultivées. Christiane Duprat, vous venez de publier un livre avec Fabien Liagre aux éditions de la France Agricole. Tout un programme, un livre qui s'appelle Agroforesterie et la photo de couverture. Très joli, il y a une très belle lumière et on voit des arbres qui sont plantés de manière assez régulière. Et sous les arbres, un champ de céréales qui est en train d'être moissonné par un engin agricole. C'est une photo complètement saugrenue, insolite. D'abord parce que l'agroforesterie, pratiquement personne ne sait ce que c'est. Et puis quand on sait ce que c'est, on associe ça immanquablement aux tropiques, par exemple, mais certainement pas à un paysage aussi bien de chez nous.
Oui, tout à fait. Cette photo, d'ailleurs, on a eu pas mal de réactions et souvent on nous a dit « mais c'est un montage, c'est pas vrai, ça n'existe pas ». Et pourtant, ça existe. C'est une de nos parcelles d'expérience qui est dans la région d'Alès, dans le Gard, dans laquelle on a cultivé des peupliers et des céréales pendant 12 ans avec une très bonne cohabitation entre les arbres et les cultures. En fait, ça illustre vraiment le concept de l'agroforesterie qui est de remettre des arbres au cœur même des parcelles cultivées ou pâturées.
Remettre, parce qu'en effet, jusqu'au début du XXe siècle, je crois, il y en a eu pas mal.
Des arbres dans les parcelles cultivées, il y en a toujours eu. Rappelons-nous que toutes les parcelles agricoles ont été obtenues par défrichement. Et le défrichement, au Moyen-Âge, ce n'était pas un défrichement intégral. On gardait des arbres. On cultivait au milieu des arbres qu'on avait gardés. Et en fait, on a conservé longtemps beaucoup d'arbres dans les parcelles agricoles, dans les prairies, mais aussi dans les parcelles cultivées. Et c'est la mécanisation qui a conduit à la disparition très rapide de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. On estimait qu'il y avait 600 millions d'arbres isolés dans les parcelles agricoles il y a 60 ans. Il en reste moins de 200 millions. Donc, si vous voulez, les arbres ont vraiment disparu progressivement des parcelles agricoles.
Disparu des parcelles agricoles, disparu aussi des mentalités, puisque c'est devenu complètement étrange d'imaginer des arbres au milieu des cultures.
C'est vrai, c'est un peu saugrenu, et les premières fois qu'on allait voir des agriculteurs pour leur en parler, pour leur dire « vous ne voudriez pas essayer, on voudrait faire des expériences », on avait toujours peur de se prendre un coup de fourche, parce qu'effectivement les réactions sont parfois un petit peu ironiques, et même plus, on s'est fait jeter parfois, mais pas souvent, pas tant que ça. Et en fait, c'est vrai que les agriculteurs ont pris l'habitude de considérer les arbres comme des ennemis ou en tout cas comme des indésirables, qui gênent. Et on les a aidés à penser comme ça, notamment avec la politique agricole commune qui était une puissante incitation à arracher les arbres à cause d'un mécanisme tout à fait pervers qui était de dire « si vous avez un arbre dans une parcelle, on vous enlève une surface de la parcelle correspondant à l'arbre, mais en fait à plus que l'arbre, sur lequel vous n'avez pas droit aux primes de la PAC ». Donc on a eu des arrachages massifs d'arbres uniquement pour ne pas être embêté par les contrôleurs de la PAC et ne pas voir ses primes PAC réduites. Et ça, c'était une mesure discriminatoire contre les arbres qui fait que l'arbre a été assimilé à une gêne et à une perte de revenus. Alors qu'en fait, ça ne devrait pas l'être.
Mais alors, autant on peut comprendre que ça ait pu être une gêne pour la mécanisation, autant qu'est-ce qui a pu justifier que la PAC soit aussi farouchement opposée à la présence des arbres sur le territoire ?
L'origine de ce règlement, à mon avis, il n'était pas du tout contre les arbres. Il était contre le cumul de subventions sur une même parcelle. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez qu'il y ait des arbres, vous pouvez avoir une autre production sur la parcelle. Et comme les aides étaient liées à une production, il ne fallait pas qu'il y ait double production sur la parcelle. Donc en fait, ce n'est pas les arbres en eux-mêmes qui étaient visés, c'est le fait d'avoir des systèmes à double finalité. Et ça, c'est très dur à gérer pour les administrations, c'est très dur à contrôler, c'est très dur à administrer finalement. En France, vous avez une administration forestière, vous avez une administration agricole, et elles ont beaucoup de mal à se parler. Et en fait, l'agroforesterie est au cœur des deux, et c'est pour ça que les arbres dans les parcelles agricoles, c'est pas simple à gérer, du point de vue administratif.
Ce terme d'agroforesterie, il existait ou c'est un néologisme ?
C'est un néologisme qui est apparu dans les années 70 en anglais, et qui a été traduit mot à mot en français, qui est très utilisé dans le monde anglophone. On l'a utilisé en français, et finalement, malgré sa connotation, il n'est pas très précis, parce qu'il ne s'agit pas de foresterie du tout. On ne gère pas de forêt, on gère des arbres dans des parcelles agricoles cultivées. Donc le mot agroforesterie en lui-même est un peu trompeur, mais aujourd'hui, tout le monde l'emploie, il est passé dans l'usage, donc on va le conserver, il est bien pratique.
Alors, venons-en maintenant au cœur de l'affaire. Vous êtes chercheur à l'INRA. Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette méthode ancestrale, remise au goût du jour, qui n'avait même pas de nom?
D'accord. Eh bien, en fait, quand vous regardez les écosystèmes naturels, c'est toujours des mélanges d'arbres et de plantes herbacées. Et l'agriculture intensive s'est éloignée donc complètement de ce schéma de production végétale en spécialisant les parcelles. Vous avez dans des parcelles une seule variété, une seule espèce, parfois un seul clone, donc le même génome répété à l'infini. Et c'est également vrai pour les cultures. Et donc on s'est complètement éloigné du modèle, je dirais, naturel de communauté végétale. Et l'idée de départ, c'est de voir si en imitant la nature, on ne pourrait pas faire mieux. Mieux que les systèmes intensifiés où il n'y a qu'une seule espèce cultivée et qu'on doit défendre avec des produits phytosanitaires, avec beaucoup d'engrais pour qu'elle puisse se développer. Donc l'idée qu'il y a derrière l'agroforesterie, c'est de remettre les fonctionnements des systèmes naturels au service de l'agriculture. Donc d'utiliser l'arbre comme un producteur, mais aussi comme un producteur de services par rapport à la production agricole.
Mais Christian Duprat, c'est curieux, on dirait presque que vous parlez de permaculture.
Non, la permaculture, c'est, je dirais, une idéologie liée au fait qu'il ne faut pas toucher le sol, qu'il faut travailler qu'avec des plantes pérennes. Nous n'avons rien contre les plantes annuelles, qui sont d'excellents moyens de se nourrir et de s'habiller. Donc, ce n'est pas du tout lié à l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le mélange d'arbres et de cultures, ensemble, en interaction, pour produire mieux. Voilà, ce n'est pas forcément utiliser que des plantes pérennes.
Comment est-ce que vous avez démarré les premiers coups de fourche passés ?
On a commencé à travailler d'abord sur les arbres dans les prairies, donc ce qu'on appelle le sylvopastoralisme, la plantation d'arbres associés au pâturage. Et le départ, c'était l'idée de départ qu'on a essayé de développer, c'était de se dire il y a toujours eu un conflit entre les pastoraux, les éleveurs et les forestiers. Parce que les forestiers, les animaux ont la fâcheuse tendance de manger les jeunes plants d'arbres. Donc à partir du moment où vous voulez renouveler une forêt, la régénérer, vous allez planter, vous allez laisser les arbres revenir naturellement, mais il faut enlever les animaux. Parce que si vous laissez les animaux, les jeunes arbres sont pâturés, broutés et détruits. Donc l'idée que j'ai développée dans les années 80, c'était de se dire, on doit pouvoir mettre des arbres dans les prairies sans enlever les animaux, tout en... avec une technique qui était de protéger individuellement chaque arbre. Et c'est ce qu'on a utilisé, ce sont des manchons qui permettent de protéger chaque arbre et de maintenir les animaux dans la prairie. De cette manière-là, la prairie continue à être valorisée, il n'y a pas de broussailles qui s'installent, elle continue à être de qualité. Et les arbres qui sont protégés par ces manchons, qui sont des tubes de 1m30, 1m70 de haut, selon les animaux, permettent aux jeunes arbres de se développer sans être agressés par les animaux, sans être en danger. Et ça évite le conflit traditionnel du forestier et de l'éleveur autour de la régénération. Ça nous a permis de mettre en place des parcelles dans différentes régions de France avec du pâturage et des animaux et des arbres. Et donc on a vu progressivement que les arbres étaient bien à l'aise finalement. Il y a un dogme, moi j'ai fait des études forestières et on m'a toujours expliqué que pour faire une forêt, il faut planter beaucoup d'arbres qui se serrent les uns les autres, les plus forts vont prendre le dessus, on va les sélectionner par l'éclaircie, parce que si on n'en plante pas beaucoup, ils ne vont pas bien pousser. ils vont être trop secoués par le vent, ils vont être pas tenus les uns les autres, etc. Donc il y avait une sorte de dogme qui disait il faut planter beaucoup d'arbres. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est l'inverse. Quand on plantait des arbres en prairie, on n'en plantait qu'une centaine par hectare. Alors qu'un reboisement forestier, c'est plus de 1000 arbres à l'hectare. C'est entre 1000, enfin, ça dépend des espèces. Et donc là, on s'est rendu compte par ces expériences que les arbres plantés à large espacement poussaient bien. Finalement, ils se débrouillaient très bien dans les parcelles. Et ça nous a un petit peu libérés de ce point de vue-là. Au début, toutes nos expériences, on nous poussait à mettre plus d'arbres, et nous, on ne voulait pas trop. On a commencé à planter à 800 arbres hectares, puis à 400 arbres hectares. Aujourd'hui, on est à 100 arbres hectares, et ça se passe très, très bien. Et en fait, on peut très bien planter des arbres à faible densité. Donc, sur les parcelles que pâturées, ça s'est assez bien passé. On a réussi à mettre en place de jolis systèmes qui sont en plus très attractifs à l'œil, parce que imaginez des arbres espacés, une prairie, des animaux, ça ressemble un peu au paradis terrestre, et c'est une image très forte que beaucoup de gens ont en voyant ces parcelles. Et ça, même au-delà du fait de la production, puisque les arbres vont produire, la prairie va produire, les animaux vont bénéficier de l'abri des arbres, donc il y avait un système qui fonctionnait bien. Et puis début des années 90, vers l'année 95 par là, on a été sollicité pour tenter de faire la même chose avec des cultures. Donc cette fois-ci, non plus avec des animaux de la prairie, mais avec des cultures.
Et là, il sollicité fallait...
par qui ? Oh, par différents propriétaires de la région. C'était l'époque de la déprise agricole, on ne savait plus quoi faire des terres agricoles. On se disait, bon, qu'est-ce que je pourrais faire sur mes terres ? Et puis, en fait, le grand déclencheur, ça a été en 94, le Conseil général du département de l'Hérault, qui a fait un appel d'offres à l'INRA de Montpellier en disant, voilà, on a un domaine, le domaine de Restinclière, un domaine de 200 hectares. On ne sait pas quoi faire des terres agricoles. On propose à la communauté scientifique de Montpellier, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original qui serve de pédagogie, de recherche sur ce domaine ouvert au public, qui est à une quinzaine de kilomètres de Montpellier. Et à ce moment-là, ben, je me suis dit, voilà, on va faire une proposition de faire de l'agroforesterie avec les cultures sur ces parcelles. Et puis c'est le projet qui a été retenu, parce que ça correspondait bien au souhait du propriétaire, qui était de valoriser son terrain à long terme avec quelque chose d'innovant. Et puis ça correspondait bien à nous, nos souhaits, de tester quelque chose d'un peu nouveau, arbre et culture.
Est-ce qu'il a fallu que vous tâtonniez pour rechercher les associations, les bonnes associations arbre-culture, ou est-ce que tout va avec tout ?
Non, on a pas mal tâtonné. Peut-être pas forcément sur les espèces. En fait, sur le domaine de Restinclière, qui a été planté donc en 95-96, où on a planté 10 000 arbres à peu près, on a testé une quarantaine d'espèces d'arbres différentes, associées à du
quel
blé.
Genre ?
Oh, alors les arbres, il y en a de très nombreux. On va partir des fruitiers à bois de qualité, hein, des noyers, des merisiers, des poiriers non greffés, des cormiers, des alisiers, des érables également. Et puis on est allé jusqu'à des résineux, parce qu'on a des terrains difficiles, des terrains à très faible réserve hydrique, donc sur lesquels on a été installé des pins, différentes des cyprès, des choses comme ça, un peu des espèces méditerranéennes, associées cette fois-ci à la vigne. On avait des associations avec les céréales et d'autres avec la vigne. Voilà. Et en fait, donc, on a mis en place ces expériences à Restinclière en 1995. Et depuis, je dois dire que, je ne sais pas, chaque année, des milliers de personnes maintenant visitent ce site-là. On y vient de toute l'Europe. C'est devenu un site de référence où on voit comment des arbres et des cultures peuvent coexister. Et c'est en voyant ces parcelles qu'on a convaincu beaucoup de monde de se lancer. En fait, c'est très visuel, l'agroforesterie. Des arbres espacés dans les cultures, c'est tellement surprenant que quand vous l'avez vu une fois, vous ne l'oubliez pas. Et beaucoup d'agriculteurs réticents ou qui se disent que c'est quelque chose d'un peu étrange, une fois qu'ils ont visité les parcelles, ils réfléchissent. Et trois mois après, ils nous rappellent en disant « ça m'intéresse, je voudrais bien essayer sur un coin de parcelle, là, voilà ».
Christian Duprat, évidemment, ça a l'air magnifique quand vous racontez, et je comprends qu'on puisse être conquis par la beauté du spectacle. Mais au-delà de la beauté, est-ce qu'il y a des avantages pour les cultures ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que tout de même la mécanisation avait été bien aidée par la disparition des arbres. Mmh. Les tracteurs sont toujours là, d'ailleurs ils sont même sur la photo de votre livre.
Oui, je dirais d'abord que si on fait ça, de manière très prosaïque, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est ce que je dis et toujours aux agriculteurs qui s'interrogent sur l'intérêt du système, c'est que dans une parcelle agroforestière, vous avez des cultures qui restent là, parce qu'en fait, quand on plante 50 ou 100 arbres à l'hectare, ça diminue très peu la surface cultivée, en tout cas pendant une grande partie de la vie des arbres. Et puis, donc vous avez une culture qui vous rapporte, qui vous permet de vivre, mais vous investissez en même temps dans des arbres qui vont pouvoir vous rapporter plus tard. Alors évidemment, plus tard, c'est un peu loin. Ça peut être 10 ans pour des peupliers sur des terrains très fertiles, ça sera plus généralement 30 ans, 40 ans, 50 ans, donc la génération d'après. Mais quand on se rend compte que sur ces parcelles, le revenu des arbres pourrait être aussi important que le revenu des cultures à terme, ça veut dire qu'en gros, vous allez doubler le revenu de la parcelle à terme. Ça veut dire que vous mettez en place un nouveau système sur votre exploitation agricole qui est une vraie diversification où il y a des arbres et des cultures qui produisent en se complétant sur les mêmes parcelles. Et c'est un des résultats principaux qu'on a obtenu, c'est que sur des parcelles bien menées, avec un bon choix des espèces, on produit sur un hectare beaucoup plus en mélangeant les arbres et les cultures qu'en les séparant. On gagne en productivité, en fait. Donc ça a été le résultat qui a un peu tout déclenché. Sur nos parcelles de Restinclière, les noyers et le blé, ensemble, produisent 50% de plus que si on sépare le blé sur une partie de la parcelle, les noyers sur une autre partie de la parcelle.
Vous avez une explication à ça? Parce que c'est assez surprenant.
Non, c'est surprenant. Enfin, le chiffre est un peu surprenant, mais les mécanismes sont simples. C'est tout simplement une complémentarité dans l'utilisation des ressources. Quand vous avez une parcelle de blé, tout le soleil, la lumière qui va tomber en été après les moissons ne sert pas à la production. S'il y a des noyers, elle va servir à faire pousser les noyers. Inversement, en hiver, si vous avez une parcelle de noyers, pendant 6 à 8 mois, les noyers n'ont pas de feuilles, toute l'énergie lumineuse qui tombe sur la parcelle n'est pas utilisée pour la production. Quand vous avez du blé et des noyers ensemble, vous avez une très belle complémentarité pour l'utilisation du soleil. Le blé travaille l'hiver, le début du printemps, les noyers l'été, le début de l'automne. Donc rien que ça explique une bonne partie des choses, mais c'est pas tout. Après, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la facilitation, c'est-à-dire le fait qu'une espèce favorise l'autre en modifiant le milieu. Voilà, donc là on peut rentrer dans le détail.
Mais après, c'est là effectivement que vous devez trouver des associations qui sont plus efficaces que d'autres.
Tout à fait.
Et simplement pour rester sur le noyer, puisque le noyer a quand même la réputation d'avoir une ombre particulièrement traîtresse.
Tout à fait, mais si vous mettez trop de noyer à l'hectare, bien sûr, rien ne poussera dessous à cause du manque de lumière. Mais nous faisons des systèmes avec, on va dire, 50 noyers à l'hectare. Avec 50 noyers à l'hectare, vous pouvez cultiver du blé jusqu'à la récolte des noyers. Et vous aurez une baisse de production du blé à la fin, bien sûr. Mais en moyenne, sur la durée de vie des arbres, c'est relativement faible. Et c'est ça qui fait la force du système. Vous mettez en place du capital à long terme, sans sacrifier votre revenu à court terme. Alors, il y a après d'autres choses. On dit toujours, par exemple, que sous les noyers, rien ne pousse. Ça vient du fait que les feuilles de noyer et le brou des noix également émettent, les racines émettent une substance, une hydroquinone, enfin ce qu'on appelle une juglone, qui est un inhibiteur de plusieurs fonctions physiologiques des plantes, donc la germination notamment, des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on voit dans nos parcelles, c'est que ça ne se produit pas du tout. Pour qu'il y ait cet effet d'inhibition des noyers sur la culture, il faudrait des accumulations de juglones dans le sol qui ne sont pas du tout celles qu'on obtient dans nos parcelles. Donc effectivement, sous un vieux noyer au fond du jardin qui est là depuis 100 ans et qui depuis 100 ans accumule des feuilles sur le sol, vous pouvez avoir vous pouvez avoir un effet négatif sur les cultures que vous pouvez faire. Mais en fait, ce que je dis souvent aux gens qui me disent « rien ne pousse sous mon noyer », je leur dis « passez le motoculteur, supprimez les racines de surface du noyer, vous verrez que sous votre noyer, ça va pousser ». C'est surtout une compétition pour l'eau, en fait. Parce que dans un jardin, la fertilité est en surface, donc tous les arbres remettent des racines en surface. Et là, vous avez énormément de racines de noyer en surface dans tous les jardins de France.
Oui, parce que j'allais vous dire, votre noyer, dans 100 ans, il aura 100 ans. Donc
oui, tout à fait. Mais ceci dit, nos arbres dans les parcelles agroforestières, eux, ils ne sont pas du tout comme des noyers de jardin, parce qu'en fait, la compétition des cultures les transforme complètement. Imaginez un blé. Un blé, il va s'implanter à l'automne, un blé d'hiver, il va s'implanter à l'automne. Dès la fin d'hiver, il va se développer, il va utiliser l'eau du sol, et donc le sol va s'assécher. Au moment où l'arbre démarre, et par exemple un noyer, ça démarre très tard, ça démarre au mois de mai, au moment où le noyer démarre, le sol sous le blé est déjà sec. Donc le noyer n'y va pas. Il va être obligé de descendre ses racines en profondeur et de passer sous la culture. Et ça, c'est très bien parce que ça l'oblige à avoir des enracinements profonds, donc il va bien résister à la sécheresse. Et nous, on a des parcelles en 2003 où les arbres n'ont pas perdu leurs feuilles dans les parcelles agroforestières, alors que dans les plantations forestières d'à côté, ils perdaient leurs feuilles. Donc si vous voulez, les arbres sont transformés par les cultures. C'est un de ces avantages, de ces facilitations du système, du mélange arbres et culture.
Bon, évidemment, on a envie de vous demander tout de suite quels autres arbres et quels autres avantages. Et... Mais avant, j'ai une petite question qui est restée, Christian Duprat. Vous avez parlé des avantages financiers immédiatement, mais la PAC, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a changé depuis?
Ah, alors là, il y a eu un grand changement, c'est-à-dire qu'en 1999, il y a eu un livre blanc sur l'agroforesterie qui a été remis au ministère, qui a été signé par beaucoup de professionnels du secteur. Et en fait, on a commencé à faire prendre conscience à l'administration qu'il y avait un potentiel là intéressant. Et progressivement, on a obtenu que les réglementations absurdes soient annulées, quoi, ou ne soient plus reconduites. Et depuis 2006, c'est tout récent, hein, c'est vraiment 2006, on tolère qu'il y ait jusqu'à 50 arbres par hectare dans les parcelles cultivées sans pénaliser les primes PAC. Voilà. Donc c'est une grande nouveauté. En fait, on ne demandait pas d'aide spécifique, on demandait juste que ne soient pas pénalisés les gens qui gardent des arbres dans leurs champs.
Revenons donc à ces champs et à ces arbres. Hormis les noyers et les céréales, vous avez parlé de vignes.
Oui, alors pour les cultures, on fait à peu près de tout. Hein, en culture intercalaire, on peut faire des cultures d'hiver, des cultures de printemps, on peut faire du maïs ou du tournesol. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a qu'une culture qui est vraiment délicate, c'est la pomme de terre ou la betterave, c'est les tubercules, parce que les outils de récolte sont énormes et travaillent sur des envergures très larges. Donc là, ça devient un peu compliqué avec des arbres. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté. Simplement, pour la cohabitation avec les arbres, les cultures d'hiver sont mieux pour former les arbres, avoir des enracinements profonds. Si vous plantez des arbres avec du maïs, vous aurez des arbres avec des racines complètement superficielles, puisqu'on arrose le maïs, on le fertilise en surface, et là, les arbres ils réagiront comme le maïs. Donc là, on n'aura pas la complémentarité que je décrivais tout à l'heure. Donc il vaut mieux, quand on peut, faire des cultures d'hiver avec les arbres.
Et les machines agricoles ?
Alors les machines agricoles, elles sont tellement maniables aujourd'hui qu'on sait faire. Par exemple, à Restinclière, on a planté 10 000 arbres. En 12 ans, les agriculteurs, c'est des vrais agriculteurs, ont dû en abîmer 30. Donc, bon, c'est rien, quoi. On sait faire. Si les arbres sont plantés à des espacements bien pensés dès le départ, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, on plante les lignes d'arbres plutôt à 26 mètres ou 34 mètres en fonction de l'envergure des appareils de traitement.
En revanche, effectivement, ce sont des alignements, toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du saupoudrage élégant et esthétique.
On peut toujours. Alors, il y a des gens, effectivement, qui sont assez réticents aux alignements, qui trouvent ça pas très esthétique. Alors, on peut jouer là-dessus. On peut déjà ne pas mettre les arbres au carré ou au rectangle. C'est-à-dire que sur les lignes d'arbres, on peut avoir des espacements aléatoires. Ça casse déjà complètement les perspectives et ça, c'est pas mal. Ceci dit, vous me parlez d'aliments parce que vous regardez en ce moment la photo de couverture du livre qui présente une parcelle où il y a 200 arbres à l'hectare et donc des densités beaucoup trop fortes par rapport à ce qu'on préconise. À 50 arbres à l'hectare, vous perdez déjà beaucoup l'image de ces alignements et donc si en plus vous faites des espacements aléatoires sur la ligne, vous y arrivez. Maintenant, je connais même des agriculteurs qui sont très soucieux de l'image et qui ont tenté de faire des arbres vraiment pas alignés. Mais il faut être courageux, hein. Ça ressemble au gymkhana en tracteur, donc je ne recommande pas du tout.
Et si on franchit encore un cran dans la difficulté et qu'on essaye de mettre des arbres d'espèces et de variétés différentes ?
Ah, ça c'est un des grands avantages de l'agroforesterie. Quand vous faites des parcelles forestières, quand vous plantez, ou quand vous faites du boisement de terre agricole, qu'on a fait pas mal pendant les 30 dernières années, vous plantez toujours une seule espèce. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous plantez un mélange d'espèces, vu les densités auxquelles vous les plantez, qui sont denses, vous allez avoir une espèce qui va pousser plus vite que l'autre. Et celle qui va pousser plus vite que l'autre va étouffer l'autre. Donc c'est très difficile d'avoir des mélanges d'espèces à densité forestière qui restent ensemble. Et on a peu de forêts en France qui sont même gérées pour deux espèces simultanément, avec un objectif de production sur les deux espèces. La principale, c'est la hêtraie sapinière du Jura. Là, on gère vraiment les parcelles pour le hêtre et le sapin. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas simple du tout. En plantation, on n'y arrive pas. Alors qu'en agroforesterie, il y a une grosse différence. C'est que comme les arbres sont très espacés, c'est ce qu'on appelle des arbres en croissance libre. Ils ne sont pas en compétition les uns avec les autres. Et donc, vous pouvez planter côte à côte deux arbres de deux espèces différentes qui auront deux vitesses de croissance différentes. Comme ils sont peu en compétition entre eux, ils pourront vivre chacun à leur rythme. L'un pourra être mûr à 40 ans, l'autre à 60 ans. Vous voyez, c'est parfaitement possible. Et aujourd'hui, on préconise vraiment de faire des mélanges de 5 à 6 espèces d'arbres, pied à pied, dans les parcelles. Alors ça a plein d'avantages, c'est que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire si un jour il y a un accident sur une espèce d'arbre, une maladie, quelque chose, votre parcelle ne sera pas entièrement détruite. Et puis vous aurez moins de risques de ce type-là ou de risques climatiques, si les arbres cassent au vent, une espèce peut casser et pas l'autre, etc. Et puis vous diversifiez la production, c'est-à-dire que vous aurez des bois de différentes qualités qui arriveront à maturité à différentes années, différents âges. Donc vous étalez la production. Et ça, c'est très intéressant. En plus, le paysage est vraiment sympa, avec plein d'arbres différents.
Dans le livre, il y a des enluminures très anciennes. Mmh. Et donc vos sources d'inspiration, souvent, elles remontent au Moyen-Âge. Christian Duprat.
Oui, et même plus loin, puisque les agronomes romains, dans leurs traités, ont pas mal décrit de systèmes agroforestiers. Notamment, il y en avait un qui était célèbre, c'est ce qu'on appelle l'arbustra. L'arbustra, c'est la manière classe traditionnelle de cultiver la vigne en se servant d'arbres comme support pour faire grimper la vigne. Donc ça, c'est un système agroforestier très traditionnel romain qui a été bien décrit. Oui, là, vous faites référence au Codex Vidobonensis, qui est un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale d'Autriche et qui illustre la vie au Moyen-Âge, enfin, avec un certain nombre d'enluminures, enfin, de beaux dessins. Et ce qui est assez frappant, c'est que sur les dessins qui représentent la campagne, il doit y en avoir une cinquantaine, il y en a 40 qui représentent des systèmes agroforestiers, où il y a des arbres et des cultures ensemble. Et ça montre bien, alors les arbres, c'était surtout des arbres fruitiers à l'époque, mais il y avait toujours des mélanges, un peu comme on avait autrefois les pêches de vignes, les pêchers de vignes dans les vignes, etc. Et donc c'était des pratiques très traditionnelles qui ont effectivement disparu progressivement.
Est-ce que c'est parce qu'on a évolué vers les systèmes de haies, qui à leur tour d'ailleurs ont disparu, mais est-ce que les haies ont remplacé ces plantations parsemées ?
Un peu, mais la difficulté avec la haie, c'est qu'elle a perdu très largement sa fonction productive. Autrefois, la haie, c'était la ressource en bois, énergie, donc ça va peut-être le revenir, mais bon, jusqu'à présent, la haie avait perdu en grande partie sa fonction de production. Ce qui fait que les agriculteurs, ils subissaient les haies plus qu'ils ne les acceptaient, ils ne les géraient.
Oui, mais en fait, ma question, elle remonte plus loin dans le temps. Mmh. C'est-à-dire, je me demande pourquoi, de l'époque des Romains et du Moyen-Âge, on a finalement arrêté ce système. Alors, je me demandais si c'était parce qu'on avait trouvé les haies qui, en effet, étaient très productives.
Les haies sont assez récentes comme système. Le système bocager n'est pas très ancien, en fait. Les haies ont été reconstituées de manière très forte au 17e, 18e et 19e. Et donc, ce n'était pas des systèmes hérités du Moyen-Âge. Ce qui était hérité du Moyen-Âge, c'était les essarts, c'est-à-dire c'est des parcelles cultivées où il restait des arbres dans les parcelles, plutôt ça. Donc, la haie avait une fonction aussi très importante de bornage, de protection de sa propriété, etc., qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens, qui n'est plus essentiel aujourd'hui. Par contre, la haie a un rôle de biodiversité très important et sa perte a été une grosse perte par rapport à la vie dans les campagnes. Voilà.
Et ça ne répond toujours pas à mon interrogation. Pourquoi est-ce que l'agroforesterie, sous sa forme ancienne, a disparu ? Elle n'a pas disparu.
Si, elle n'a pas tout à fait disparu. Vous savez peut-être quels sont les premiers agriculteurs en France qui ont acheté des tracteurs, qui ont eu les moyens de s'acheter des tracteurs. C'est des agroforestiers. C'était les agriculteurs de la vallée de l'Isère qui faisaient du noyer, qui avaient des noyers dans leurs parcelles, qui faisaient du noyer associé aux céréales, et qui ont pu, en coupant 50 noyers, amasser le capital pour s'acheter un tracteur. Donc l'arbre, en fait, dans les parcelles, il a une fonction de banque. De réserve de capital. Et ça, c'est une fonction qui a été vite oubliée, parce qu'on est rentré dans des systèmes bancaires, on est rentré dans des systèmes financiers, etc. Et en fait, il y a des systèmes donc, agroforestiers qui sont parfaitement maintenus, notamment les systèmes à base de noyer, du Périgord ou du Dauphiné, malgré le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on recommande de faire du noyer bastige avec des variétés américaines greffées, enfin, qui permettent de faire de la production de noix au bout de 3 ou 4 ans après la plantation. Eh bien, il y a encore énormément de nuciculteurs, de cultivateurs de noyer qui préfèrent mettre des noyers haute tige dans un système typiquement agroforestier.
Bon, mais Christian Duprat, ces techniques agroforestières, est-ce qu'elles sont compatibles avec une agriculture biologique, durable ?
Alors, ce que nous disons aux agriculteurs qui sont intéressés finalement, c'est que l'agroforesterie, ce n'est pas une agriculture biologique. Si vous faites de la culture biologique entre vos arbres, vous ferez de l'agroforesterie biologique. Si vous faites de la culture conventionnelle, vous serez en agroforesterie conventionnelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'amener des arbres dans les parcelles à faible densité, comme on le fait, ça bouleverse un petit peu l'équilibre écologique de la parcelle et ça enrichit les parcelles d'un point de vue écologique de manière très importante. On a un retour de biodiversité qui est assez important et des tas d'insectes ou de plantes ou d'animaux qui ont disparu complètement des systèmes agricoles trouvent refuge dans ce système-là. Alors, un petit exemple, parlons des chauves-souris. Les chauves-souris sont des animaux insectivores en France qui vont... qui se guident uniquement par leur sonar, par l'éco-radar, et qui ne peuvent pas aller dans les parcelles agricoles où il n'y a pas d'arbres, parce qu'il n'y a pas d'éco-radar. Donc elles ne vont plus dans les parcelles agricoles, elles ne participent plus au contrôle des insectes dont elles se nourrissent dans les parcelles agricoles. Dans nos parcelles expérimentales, on a suivi les chauves-souris avec des radars, et on s'est rendu compte que grâce aux allées d'arbres, elles recolonisent les parcelles agricoles où elles vont reconsommer des insectes, etc. Donc voilà un exemple d'impact de l'arbre qu'on n'imagine pas au départ, mais qui permet une recolonisation des parcelles agricoles par des animaux qui ne sont absolument pas nuisibles aux cultures, en l'occurrence.
Mais qui pourraient l'être également.
Ah bien sûr, les lignes d'arbres au pied des arbres peuvent héberger des limaces, des mulots, des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en réintroduisant des arbres, on réintroduit à la fois des espèces peut-être nuisibles, mais aussi leurs prédateurs. C'est-à-dire qu'on remet en place un système beaucoup plus complet. Et en fait, les systèmes agricoles sont fragiles parce qu'ils sont très monospécifiques, donc très sensibles à des invasions brutales de parasites spécialisés. Tandis que des systèmes diversifiés, vous allez avoir une grande diversité d'espèces qui vont éviter ce genre de choses. Alors, ce que je vous dis là, c'est des hypothèses de travail. On étudie ça un petit peu à l'INRA et ailleurs, mais ce n'est pas facile à faire. Donc on l'étudie sur certains groupes. On travaille sur le contrôle des pucerons des céréales grâce à des insectes qui reviennent dans les parcelles grâce aux arbres, des choses comme ça. Voyez. Mais ça, c'est tout ce qui est diversité biologique des parcelles. Quand vous mettez un arbre, vous ne mettez pas qu'un arbre. Vous mettez l'arbre, vous mettez toutes les herbes qui vont pousser sous l'arbre, tous les insectes qui vont venir dans l'arbre, les oiseaux qui vont venir se percher, les chauves-souris qui vont utiliser les éco-radars, les vers de terre qui ne vont plus être dérangés l'été par les labours qui assèchent le sol, etc. Voilà.
En tout cas, ce qui est très clair, c'est que richesse de la biodiversité égale richesse des cultures.
Non, là, vous êtes un petit peu trop optimiste. Je pense que s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent, ils vont peut-être trépigner en disant non, c'est pas tout à fait vrai. L'arbre peut causer des difficultés et c'est pas aussi automatique. Mais pour l'instant, on a...
C'est quand même vous qui aviez l'air de le...
Oui, mais vous voyez, je nuance. Hein. Mais on nous a pas rapporté de catastrophe pour l'instant. Voilà. Ouais. On va dire peut-être les limaces qui sont les plus menaçantes, mais en fait, on a des échos inverses. Moi, je discutais la semaine dernière avec un agriculteur qui me disait mais non, moi, les limaces, les dégâts de limaces, c'est pas en bordure de champ près des haies ou des arbres que je les ai, etc. Donc c'est plus subtil que ça, en fait. C'est assez compliqué de comprendre qu'est-ce qui fait ou pas le système. Mais là, on parle de la biodiversité. Bon, ça, c'est un sujet un peu délicat parce qu'il est complexe. Dès qu'on s'intéresse aux chaînes alimentaires, à la diversité biologique dans son ensemble. Mais il y a d'autres effets aujourd'hui qui sont intéressants, ne serait-ce que, par exemple, la fixation de carbone. Quand vous comparez des parcelles agricoles classiques et des parcelles agroforestières, eh bien, dans la parcelle agroforestière, vous avez un gros stock de carbone, pas seulement dans les arbres, mais aussi dans la matière organique du sol en profondeur, ces racines d'arbres qui se décomposent année après année en profondeur, ça enrichit le sol en matière organique. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on y pense de plus en plus.
Et justement, au-delà de la composition en matière organique du sol, la composition du sol est changée.
La composition, la granulométrie, les propriétés physiques du sol, non. Un sol, ça n'évolue pas à cette vitesse-là, c'est pas la végétation qui va le faire évoluer. La matière organique, oui, un peu, mais pas le reste. Donc, de ce point de vue-là, non. Par contre, ce qui est vrai, c'est que avec cet enracinement profond des arbres que je vous ai décrit, on a un outil intéressant qui peut permettre de récupérer les nitrates. C'est-à-dire les nitrates qui échappent aux cultures, qui descendent dans le sol. L'arbre est actif au moment où le nitrate percole dans le sol, il va pouvoir être récupéré par l'arbre. Et ça, c'est intéressant parce que la pollution par les nitrates, c'est quelque chose, une pollution diffuse qui est difficile à maîtriser par les cultures. Et en fait, par rapport à cette pollution par les nitrates, l'arbre a un deuxième effet qui est intéressant, c'est qu'il va assécher le sol en profondeur en été, plus que ne le font les cultures. Nous le mesurons très bien dans nos parcelles. En fin d'été, dans les parcelles agroforestières, le sol en profondeur est vraiment très sec. Et ce qui va faire que les pluies d'automne, qui sont celles qui souvent font partir le nitrate, qui l'emmène en profondeur, vont remplir des horizons de sol profonds, donc aller moins loin. Et donc l'eau pénétrant moins loin, elle va faire descendre moins le nitrate qui va pouvoir être récupéré par les arbres, etc. Donc ce sur quoi on travaille actuellement, c'est de bien quantifier en quoi ces arbres et leur système racinaire profond peut nous aider à protéger les eaux, finalement, les eaux de surface.
Et les inondations ?
Alors les inondations, l'arbre, si on parle des événements catastrophiques, les grosses pluies qui donnent des inondations généralisées, les arbres auront peu d'impact globalement. Par contre, ce à quoi...
Une meilleure fixation des sols ?
Oui, alors la protection des sols, oui. Mais la protection des sols, c'est surtout les façons culturales, le fait de faire des talus au niveau, vous voyez, que les lignes d'arbres soient plantées en courbe de niveau, des choses comme ça, vont protéger le sol. C'est pas l'arbre en tant que tel. J'irais même à l'inverse, les gouttes d'eau qui tombent d'un arbre sont plus grosses que les gouttes de pluie. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus de force érosive dans l'eau qui tombe d'un arbre que dans l'eau de la pluie. Donc, ce n'est pas aussi automatique que ça. Ça va plutôt être la manière dont vous gérez le sol sous l'arbre, s'il est enherbé ou pas. Le talus au niveau des arbres, si les arbres sont plantés en courbe de niveau, là oui, vous allez protéger. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'arbre tout seul qui va protéger le sol. Voilà, il faut être un petit peu, je crois, là-dessus.
Bon, mais alors, au moment où vous m'avez empêché de dire une bêtise qui allait me mettre à dos tous les agriculteurs, en fait, moi, je m'apprêtais à vous demander si, dans tous ces rajouts que vous décrivez tout de même comme à chaque fois une richesse supplémentaire, même si en effet c'est plus compliqué, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il est possible de réintroduire les animaux ?
Les animaux sont...
Vous avez commencé en parlant des prairies. Et...
Dans les systèmes agroforestiers, à partir du moment où les arbres font 10-15 cm de diamètre, ils ne craignent plus les animaux. Enfin, sauf cas particulier de consommation d'écorce. Mais...
Non, mais les cultures les craignent.
Alors, les cultures, oui. Mais aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de systèmes de polyculture-élevage où les animaux pâturent les parcelles cultivées. C'est d'ailleurs un gros problème. Mais a priori, les arbres seront toujours favorables au retour des animaux sur ces parcelles. Parce que les arbres, c'est surtout en été qu'on fait pâturer sur les chaumes de céréales, etc. Et là, l'ombre des arbres donne un confort aux animaux. Ça leur évite des pertes corporelles d'énergie importantes. Et donc, c'est toujours favorable de ce point de vue-là. Les animaux ne sont pas un problème. Et d'ailleurs, on a des éleveurs qui utilisent beaucoup les arbres, y compris dans leur parcours et y compris dans leur communication vis-à-vis du public. C'est, je ne devrais peut-être pas le citer, mais tant pis, c'est les fermiers de Loué qui font de l'élevage de volailles plein air avec des parcelles agroforestières, et c'est remarquable.
Bon, Christian Duprat, malgré toutes les précautions que vous prenez, on a quand même envie de crier au miracle ou à la magie. Est-ce que vous vous attendiez à tout ça au départ ?
Non, parce qu'en fait, les choses évoluent progressivement, il faut du temps. C'est des programmes qu'on mène sur... Ça fait 20 ans que je suis là-dessus, donc les choses se forment peu à peu. Et puis c'est vrai qu'on est parti un petit peu face à un gros scepticisme. Je sais que par exemple on a eu un gros programme européen de recherche sur l'agroforesterie entre 2001 et 2005. Je crois que c'est pas un mystère de dire qu'on l'a obtenu contre l'avis de nos hiérarchies. On avait déposé ce projet contre l'avis de nos tutelles à l'INRA, qui ne pensaient pas que le sujet valait la peine d'être poursuivi.
Pourquoi ?
Parce que ça paraissait à contre-courant de tout, remettre des arbres dans les parcelles agricoles, pourquoi faire ? Enfin, pour compliquer la vie des gens, quoi, essentiellement.
Donc, c'était pas bon ni pour les cultures ni pour les arbres ?
Absolument. On nous prédisait que les arbres ne pousseraient jamais dans ces parcelles. Ils seraient détruits par les herbicides, leurs racines seraient arrachées par les charrues, les tracteurs rouleraient dessus, etc. Donc, c'est vrai que c'était pas évident au départ, et il fallait... Pour arriver à convaincre, je crois qu'il fallait mettre en place des parcelles et vérifier que c'était faisable, quoi. En fait, le premier travail, ça a été de voir si on pouvait arriver à le faire en vrai, avec des vrais agriculteurs. Et c'est pour ça que toutes nos expériences sont chez des agriculteurs. Il n'y a aucune expérience sur un domaine expérimental de l'INRA. Aucune. Tout est fait chez des particuliers.
Avec la difficulté que ce sont des expériences qui demandent du temps.
Mais c'est l'avantage, j'aurais jamais réussi à imposer à une ferme expérimentale de l'INRA une expérience qui dure 40 ans. C'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Donc, tandis que là, les arbres sont plantés chez les agriculteurs qui, au début, étaient un peu sceptiques. Puis après, ils ont vu qu'ils poussaient très bien. Et maintenant, ils y tiennent. Et donc, je suis tranquille, même si on ne suit plus les parcelles, les parcelles ont leur vie et il n'y a pas de problème.
Et l'Europe ?
Alors l'Europe, je dirais qu'on a moins d'inertie face à ce type d'innovation au niveau européen qu'au niveau national. L'Europe est assez ouverte sur ce type de choses. Elle a financé donc des programmes de recherche qui nous ont permis d'avoir des collaborations très intéressantes avec des Espagnols qui ont des systèmes agroforestiers traditionnels, avec des Allemands qui ont une vision de la foresterie assez stricte et donc qui étaient assez surpris par l'approche, avec des Anglais qui ont une pratique des parcs arborés à l'anglaise intéressante, qui nous a permis de voir des tas de choses comme ça. Donc l'Europe a pris une décision qui est très intéressante, c'est que le nouveau règlement de développement rural qui court de 2007 à 2012 inclut pour la première fois un article qui recommande à tous les États européens de promouvoir le développement de l'agroforesterie. C'est l'article 44 du règlement de développement rural. Simplement, cet article, il est facultatif, c'est-à-dire que dans les mesures du RDR, il y en a quelques-unes obligatoires et le reste est facultatif. Chaque État, chaque nation décide ce qu'elle veut mettre en œuvre. Et cet article qui a été mis, donc qui recommande hein, simplement d'aider les agriculteurs à planter des arbres pour faire des parcelles agroforestières et qui permet de financer la plantation jusqu'à 50 ou 80%, ça dépend. Cet article n'a pas été mis en œuvre en France. Dans le PDRH, le plan de développement rural hexagonal, qui est en cours actuellement, l'article 44 n'est pas mis en œuvre.
Alors, ça veut dire que vous n'avez pas encore convaincu ni votre hiérarchie, ni les autorités gouvernementales ?
Oui, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est encore quelque chose de trop marginal pour le mettre en œuvre. Mais c'est vrai que une innovation, ce qui est quand même une innovation, on démarre de zéro. On peut pas annoncer 10 000 hectares d'agroforesterie qui justifierait qu'on mette en œuvre, puisque c'est pour créer ça. Donc il faut réussir à l'amorcer. Mais je pense que le message passe parce qu'aujourd'hui, il y a des parcelles. On peut les visiter, on les visite de plus en plus. Et ça va suffire à faire évoluer les choses, je pense.
Ça reste des parcelles expérimentales ou bien est-ce qu'aujourd'hui, des propriétaires répliquent vos expériences ?
Non, alors cet hiver, il s'est planté 1400 hectares de parcelles agroforestières dans 25 départements en France. Aucune n'est expérimentale. Ce sont des propriétaires, des agriculteurs qui plantent des arbres. Donc c'est plus du tout des expériences. Ceci dit, on en profite pour nous vérifier dans d'autres conditions si ce qu'on prédit est correct ou pas et si on n'est pas en train de se tromper sur certaines choses.
Mais ça demande un minimum de suivi, d'accompagnement et éventuellement de formation ?
Tout à fait, mais il y a un programme national de développement de l'agroforesterie qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, qui s'est terminé là par un colloque au mois de mai. Et on a des projets d'avoir d'autres programmes qui vont poursuivre. On a fait des propositions aux appels d'offres, on attend les résultats.
Donc c'est plus quand même tout à fait la sourde oreille.
Non, tout va bien. Non, on a une bonne écoute, mais on n'a pas fait le pas de mettre en œuvre donc cet article qui permettrait d'aider les gens à planter des arbres. Et c'est dommage parce qu'en fait, quand on plante un arbre, c'est pour la génération d'après, hein, sauf pour les peupliers ou si vous plantez vraiment très jeune pour votre retraite, ce qui est possible aussi. Et donc c'est assez logique d'inciter les gens à planter par une aide à la plantation. On l'a toujours fait en France, on a toujours aidé les gens à planter, sauf ceux qui récoltent leurs arbres et qui replantent. Mais quand vous faisiez du boisement de terre agricole, on vous aidait. Et là, en plus, c'est pas très cher, parce que planter 50 arbres à l'hectare, c'est pas extrêmement cher. Donc avec peu d'argent public, on peut faire de grandes surfaces. Et aujourd'hui, ce qui est envisagé, c'est d'avoir un 500 000 d'hectares de parcelles agroforestières en France dans 25 ans. C'est pas rien. C'est vraiment un changement à l'échelle du territoire et des paysages qu'on peut mettre en œuvre.
Mais alors justement, Christian Duprat, pour terminer peut-être sur les paysages, on a pu avoir le sentiment que l'urgence en France, c'était de replanter des haies après les dégâts commis par les arrachages, le remembrement. Mmh. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a compétition, concurrence entre les haies et l'agroforesterie ? Est-ce qu'il y a complémentarité, coopération ?
Oui, c'est tout à fait complémentaire. En fait, quand on fait le bilan des haies aujourd'hui en France, on replante, c'est vrai, mais le bilan est toujours négatif. On continue à arracher plus qu'on ne replante. Et souvent, les haies qu'on revoit replantées, elles cachent le fait que les haies continuent à disparaître. Donc les haies sont indispensables et elles ne sont pas du tout en compétition avec ce que nous proposons. Ce que nous proposons, c'est autre chose. Ce sont des arbres dans les parcelles. Donc on va dire que les haies, c'est un système agroforestier adapté aux petites parcelles aussi, puisque dès que les parcelles sont petites, vous n'allez pas remettre des arbres au milieu. Hein, donc c'est déjà la même chose. Mais le système agroforestier qu'on préconise, je crois qu'il tire sa force du fait que les arbres ont de la valeur, vraiment de la valeur, et qu'ils poussent vite. Et que donc, ils motivent les agriculteurs ou les propriétaires, parce que quand vous voyez un arbre pousser, ça motive, il n'y a pas de doute. Et ça a été une des grandes surprises qu'on a eues, c'est que les arbres au milieu des cultures poussent plus vite que les arbres sans les cultures. Ça, on ne s'y attendait pas vraiment. On sait l'expliquer aujourd'hui, hein, effet des engrais, effet du plein soleil aussi, c'est des arbres en plein soleil, donc ils ont toujours l'énergie lumineuse maximale qu'ils pourraient avoir. Et ça, c'est super motivant pour quelqu'un qui plante. Il n'y a pas plus désespérant que de planter un arbre et que cet arbre ne pousse pas. Voilà. Et en agroforesterie, les arbres poussent très bien.
Et alors, question évidemment totalement corrélée à la précédente, quel lien entre l'agroforesterie et les BRF, les bois raméofragmentés ? Dont on entend beaucoup dire à la fois qu'ils sont tout à fait intéressants et aussi qu'on ne trouve pas suffisamment d'arbres à élaguer qui permettraient de multiplier ce type de recouvrement des sols.
Oui, dans nos parcelles, on faisait du BRF sans le savoir, puisqu'on broie effectivement les branches qu'on élague depuis des années. Ceci étant, ça reste une ressource en bois fragmenté assez faible. C'est pas suffisant, à mon avis, pour alimenter des parcelles de grandes cultures ou des choses comme ça. Pour moi, le bois RML fragmenté, c'est pas avec les arbres agroforestiers tels qu'on les envisage qu'on va produire une ressource suffisante pour mettre en œuvre cette technique.
Mais est-ce que ça pourrait pas conduire à l'autosuffisance de la parcelle ?
L'arbre participe à la fertilité de la parcelle. Les branches qu'on va broyer, les feuilles qu'on va broyer, les litières annuelles de feuilles et de racines. On oublie beaucoup les litières de racines, puisque les racines fines sont des organes caducs chez les arbres et que chaque année, elles participent à l'amélioration de la teneur en matière organique du sol. Tous ces facteurs-là sont des facteurs d'amélioration de la fertilité des sols, tout à fait.
Mais pas suffisamment, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer qu'on ait au milieu de la parcelle les rameaux qui permettront de couvrir de BRF la parcelle.
À ce moment-là, il faut planter sur les lignes des arbres des arbustes, des taillis à courte rotation qui serviront à faire du BRF en plus. Mais on peut faire sur les lignes d'arbres un peu ce qu'on veut. Il y en a qui font des sapins de Noël, il y en a qui font des petits fruits, il y en a qui font des fleurs. Si vous voulez, il y en a qui laissent ça pour faire des zones de refuge pour le gibier. Donc la ligne des arbres, elle peut avoir plein de fonctions dans le système. Pourquoi pas faire du BRF ? Mais pourquoi pas faire autre chose aussi ?
À chacun son paradis ?
Oui, tout à fait.
Somewhere between love and death, I'm lost. Nothing you'll find here but cost. Swaying souls, looking for ways. Rings of smoke in an ashtray. Consequences, 'cause you can lose when you have those things. Would you choose death? The security of those who know that hope is not in belliveness. In the line it waves of sorrow.
Voilà, c'est terminé pour ce matin. Vous savez que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Réalisation Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.
Did you forget it for you? Hopeless, the real could become something great, something awesome. You were wrong, we're so wrong. You can't even write a song. Oh, just nothing but for real. Try to catch what I've been sealed. You feel so out of the world, out of us, not a word. So wrong, you can't even add a sound. Somewhere between love and death.